Là, c'est bon. Ouais. Je vais vous présenter des travaux qu'on a faits il y a quelques années déjà, mais qui sont toujours d'actualité, sur des approximations de réseaux de neurones convolutionnels qui sont convolutifs, qui sont un peu au cœur des approches deep learning, d'apprentissage profond aujourd'hui. Un travail qu'on a fait avec mes collègues que j'ai mentionné ici à l'INSA et au Brésil. Alors moi-même, je ne me suis pas présenté, donc Stéphane Dufner, je suis enseignant chercheur au LIRIS et à l'INSA de Lyon. Alors je vais essayer d'être assez rapide. Il y a déjà eu pas mal de choses aujourd'hui sur l'IA de manière générale et notamment le deep learning. Et on est tous un peu d'accord que c'est assez gourmand en termes de consommation d'énergie. Je vais aller. Une solution. Là, vous connaissez certainement ce genre de graphe où on met un peu en relation les. Ici, c'est le nombre d'opérations avec la précision du modèle, même si ce n'est pas, comme on a déjà évoqué, un bon indicateur de consommation d'énergie. C'était juste pour dire que y a des modèles qui sont très gros et il y en a des modèles qui sont très petits en termes de nombre de paramètres. Et pour dire que c'est relativement récent, c'est-à-dire il y a quelques années, que le monde, la communauté s'intéresse également, non seulement à la performance en termes de précision, mais aussi à la consommation énergétique de ces modèles. Mais bon, on est quand même encore assez loin de quelque chose qui est très efficace. Mais dans le contexte, c'est que moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de faire la même chose, faire la même chose, voire mieux avec moins de ressources, et donc pour notamment aller plus vers du edge computing, donc mettre le calcul plutôt sur les devices. Je pars du principe qu'on a de l'IA, donc on a besoin de l'IA, mais il faudrait le rendre plus efficace. Voilà, après, il y a pu avoir des effets rebonds, etc. Mais ça, c'est un peu en dehors de mes compétences. Je vais aller assez vite là-dessus. Je m'intéresse particulièrement aux réseaux convolutifs qui ont deux parties. C'est juste pour dire que vous le savez peut-être déjà tous, mais il y a la partie convolutive, la partie plus qu'on appelle complément connecté ou dense. C'est deux types d'opérations qui n'ont pas le même coût en termes d'énergie et calculatoire. Les convolutions sont plutôt complexes en termes de calcul et peu de mémoire. Et inversement pour les couches complément connectées. Les approches très courantes font recours à une parallélisation assez massive et une consommation très élevée d'énergie. Il y a tout un nombre de travaux sur la compression d'un réseau de neurones. C'est un domaine qui est vraiment en expansion assez rapide. Juste pour vous donner une idée, ce que la plupart des approches entraînent un réseau de neurones complexe qui est très largement redondant. Je peux y revenir, mais donc il y a une très grande redondance par raison de, fin de fin un inhérent dans ces modèles. On entraîne un tel modèle, ensuite on essaie de le compresser, par exemple d'enlever des choses, et ensuite de réentraîner le modèle pour compenser ces erreurs d'approximation et pour arriver à un modèle qui est à la fin plus petit mais avec les mêmes performances ou presque. Et donc on arrive à des taux de compression assez impressionnantes et on peut arriver à un modèle qui est enfin, 10 ou 100 fois plus petit, on va dire, en moyenne, avec les mêmes performances. Donc il y a tout un tas de familles de méthodes qui existent. Et nous, on a travaillé sur pas mal de ces méthodes-là. Donc il y a à gauche les méthodes de compression. À droite, c'est plus des méthodes qui essaient d'optimiser l'architecture. Alors soit dès le départ, imposer une architecture plus efficace, comme MobileNet par exemple, ou alors ce qu'on appelle Neural Architecture Search. NAS, NAS, où on entraîne un très grand nombre de modèles et de manière un peu intelligente. Ensuite, on optimise souvent par apprentissage, par renforcement, un certain critère d'efficacité. Donc, voilà, vous avez tout ce qui est élagage, donc on enlève des parties du réseau de neurones. Quantification, je ne sais pas comment dire en français. Voilà, il y a même des réseaux binaires et voilà, on réduit la précision numérique des réseaux, etc. Donc, sachant que il y a quelques méthodes comme le NAS qui sont elles-mêmes très gourmandes en consommation d'énergie. Donc il y a tout un tas de questions. Enfin, combien d'énergie je veux consommer lors de l'apprentissage ou de l'inférence. Donc, sachant que l'inférence est beaucoup moins gourmand, enfin, consomme moins d'énergie que l'apprentissage. Mais comme ça a été déjà dit ce matin, que ça peut être fait beaucoup plus de fois. Donc, voilà, il y a un compromis à trouver. Bon, ça c'est juste pour lister un peu tous les outils, enfin pas tous, mais un certain nombre d'outils qui existent pour s'y mettre, pour réduire la complexité du modèle. Je fais une petite parenthèse. Ces outils sont relativement faciles à prendre en main pour quelqu'un qui s'y connaît. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un certain frein pour ceux qui conçoivent des algorithmes d'IA ou des modèles. Soit ils n'ont pas le temps ou pas les compétences pour vraiment les utiliser. Ou alors, ouais, il y a d'autres contraintes. Ce qui fait qu'il y a un nombre très grand de modèles qui sont conçus aujourd'hui qui n'utilisent pas ces techniques, en fait. Donc, malheureusement. Donc, il y a des modèles qui sont surdimensionnés dans la plupart du temps. Et ben, c'est pour cela que je m'intéresse également dans un autre projet, c'est une petite parenthèse, de transfert technologique à concevoir un service en fait, facile d'utilisation pour des entreprises ou des data scientists. Pour rendre ces choses-là enfin, dans un service en ligne et pour les rendre faciles à utiliser pour déployer ça un peu plus large dans l'industrie et autres. Alors, donc on a développé une approche un peu spécifique de quantification des réseaux de neurones. Bon, je vais aller assez rapidement, donc ça devient un peu technique. Donc c'est une méthode qui quantifie les poids d'un réseau de neurones après l'apprentissage. Donc une fois qu'on a le modèle entraîné, on va approximer les poids de telle manière que l'inférence après va consommer beaucoup moins d'énergie. Alors, on n'a pas mesuré, malheureusement, on n'a pas mesuré exactement le gain d'énergie. Mais ça, ce sera un autre travail. Mais on a remplacé toutes les multiplications qui se font dans le modèle par des bit shift, décalage de bits et des additions. Alors, comment on fait? On remplace chaque filtre de convolution par un produit alpha. Donc, c'est des matrices M. On les remplace par enfin, on en remplace M par M chapeau, qui est un produit d'un scalaire avec une matrice T. Et chaque élément de T est ce qu'on appelle un. Alors en français, j'ai oublié, donc dyadic rational. Donc c'est un terme de telle manière que on a un scalaire M divisé par 2 puissance N. Donc en gros, c'est des puissances de 2, mais aussi également des 1 sur 2, 1 sur 4, etc., positif et négatif. Donc on a tout un. On choisit un dictionnaire de valeurs. On essaie d'approcher en fait chaque poids par le nombre le nombre le plus proche si on veut du dictionnaire. Mais c'est pas si simple que ça. Donc il y a tout un problème d'optimisation derrière. Ça, je vais peut-être sauter parce que j'ai pas le temps. On représente aussi des nombres dans un format CSD qui est beaucoup moins gourmand en énergie, en calcul. Et donc, on optimise une norme entre la matrice exacte et son approximation, alpha t, avec un programme linéaire. Ça se passe de telle manière qu'on introduit des variables binaires. Bon, je vais aller assez rapidement. Donc ça, c'est un peu la partie mathématique, comment on peut réécrire le problème d'optimisation qui devient ici. Donc il y a un terme quadratique donc, qui est plus facile à optimiser. Et puis voilà, c'est une optimisation sous contrainte. Ce qu'on fait, c'est que donc, il y a deux choses, il y a alpha et il y a le t. On obtient chaque t, chaque coefficient de la matrice par cette somme. Donc ça veut dire que on choisit, en gros, on choisit une valeur dans le dictionnaire. Donc ça c'est le R. Et puis voilà. Et donc l'optimisation se fait comme ça. Pour un alpha donné. Et pour le alpha, on va parcourir tout un domaine, donc une plage de valeurs de manière exhaustive, et on prend la meilleure matrice T pour chaque alpha. Et ensuite, on prend le alpha optimal. Enfin, il y a cette double optimisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc juste pour. Un exemple, donc on a une matrice par exemple comme ça, avec des valeurs réelles, donc une matrice 5 fois 5. Donc après l'optimisation, on a quelque chose comme ça. Donc on choisit ici le dictionnaire des 8 et on a un facteur alpha fois une matrice de telle forme où on voit que on a le facteur 1 quart, donc c'est une puissance de 2, et puis que des valeurs entières dans cette matrice, qui sont des petites sommes de valeurs de puissance de 2. Okay? Donc, par exemple, le 20, c'est 16 plus 4, etc. Donc on peut tout faire en bit shift et en addition. D'accord? Voilà, on réécrit. Le alpha, en fait, s'écrit. C'est le alpha, le 0,3, c'est le 2 puissance moins 4, donc c'est tout ce terme-là. Okay, donc on peut facilement comprendre que ça va consommer beaucoup moins d'énergie, mais on ne l'a pas mesuré, mais on s'est concentré sur la précision du modèle, donc comment on peut mesurer. Donc à chaque fois, on se compare au modèle exact et on perd, par exemple, 1% ou. Ici, on a, par exemple, sur ImageNet, on s'est permis de perdre 4%, par exemple, ce qui est peut-être dans certains cas pas désiré, mais dans d'autres cas, C'est largement suffisant. Donc, on a appliqué à la détection de visage. Ici, c'est un exemple où on compare le modèle exact avec approché. Bon, on obtient des très bons résultats. Bon, c'est tout un gros tableau, mais on peut juste pour un. Donc, on a enfin, ignoré toutes les colonnes, mais si c'est des approximations d'une fonction d'activation non linéaire. Mais si on regarde par exemple la colonne linéaire ici, donc ça c'est sur MNIST. Donc on a par exemple toutes les lignes sont des approximations différentes avec des dictionnaires différents. Mais si on regarde par exemple cette ligne-là, donc on a quatre couches, donc 4, 4, 1, 1, ça veut dire qu'on a dictionnaire 4 pour la première couche et de la deuxième et dictionnaire 1 pour la troisième et quatrième. Ça veut dire que le dictionnaire 1, c'était juste trois valeurs, moins 1, 0, 1. Et le 4, bon, c'était un peu plus. Donc, en général, il faut être plus précis dans la première ou les premières couches, ce qu'on avait remarqué. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci.